Est-ce que vous diriez de Jésus que c'est un actif ou un contemplatif? Manifestement, un homme très actif, vu l'évangile qu'on vient d'entendre, vu son activité considérable, il guérit beaucoup, il délivre beaucoup, ses journées sont vraiment bien remplies. Ses journées sont si remplies que pour prier, il se lève avant l'aube. Car c'est la seule façon, non pas de prier, c'est la seule façon d'être fidèle dans la prière, de faire passer Dieu en premier rendez-vous de la journée. Alors quand on dit de quelqu'un que c'est un actif, on sous-entend assez souvent actif pour les autres. Par différence avec le contemplatif, qui a de la chance qu'il peut prendre du temps pour lui. C'est évidemment schématique, mais ça dit quelque chose. Actif pour les autres, contemplatif pour soi. Je me suis demandé d'où vient cette idée, assez saugrenue quand on y pense, de faire ou de vouloir faire quelque chose pour les autres. Je ne parle pas de rendre un service pour s'acquitter d'une dette ou pour anticiper une demande qui va probablement arriver. Je ne vous parle pas de ce qu'on appelle familièrement des renvois d'ascenseur, de ces services qui fonctionnent en vase clos, que ce soit dans le cercle familial ou amical. Je vous parle de faire quelque chose pour les autres, c'est-à-dire pour des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne choisit pas. Et de le faire surtout sans attendre rien en retour, ni payé, ni admiré, ni reconnu. Vous savez ce que dit l'Évangile, ce que dit Jésus? Quand tu fais quelque chose pour les autres, quand même quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette. Ne cherche pas à obtenir la gloire qui vient des hommes. D'où vient donc l'idée de faire discrètement, secrètement, humblement, quelque chose pour les autres, qui est très exactement la façon de faire de Jésus? Il ne cherche pas la gloire qui vient des hommes. Il ne cherche pas la notoriété à tel point qu'il s'en va dès qu'il est trop connu. Il s'en va, le dit-il, proclamer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Je suis régulièrement sollicité par des personnes de bonne volonté, personnes toujours sympathiques, qui viennent me voir parce qu'elles veulent faire quelque chose pour les autres. Alors parfois, c'est ponctuel, comme à Noël. À Noël, c'est pour remplacer la prière commune. Je dis, plutôt que d'aller à la messe, cette année, on voudrait s'occuper des gens seuls ou des pauvres. Plutôt que d'aller à la messe. Alors, c'est une belle idée, sympathique, qui a quand même un petit peu le défaut, ou qui présente le risque, d'aggraver la solitude de ces personnes le reste de l'année. D'ailleurs, certaines me le disent. Pourquoi c'est seulement ce soir-là qu'on s'occupe de nous? Mais restons-en à ma question. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit pour que nous ayons ce désir de vouloir faire quelque chose pour les autres? Moïse avait été élevé par la fille de Pharaon comme son propre fils. Il avait été éduqué, il avait bénéficié de tous les avantages de la cour de Pharaon, il avait été éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens qui était immense. Comme il avait atteint l'âge de 40 ans, il a eu l'idée d'aller visiter ses frères, les fils d'Israël. Ce n'est pas une idée qui lui vient de son éducation égyptienne. C'est à proprement parler une pensée inspirée. Et ça a été pour lui une révélation. Qu'est-ce qu'il découvre? L'injustice. L'injustice. Et voyant que l'un de ses frères était maltraité, il prend sa défense et il tue un Égyptien. À ce moment-là, Moïse croit que la justice donne le salut. Que la justice donne le salut. Il croit qu'en faisant œuvre de justice, de défendre quelqu'un qui est maltraité, il allait être reconnu comme un sauveur. C'est au moins l'interprétation qu'en donne Étienne dans les Actes des Apôtres. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnait par lui le salut. Mais eux ne comprirent pas. Et vous savez que c'est le début de ces déboires qui entraînent une longue traversée du désert avant l'heure. Et ils se retrouvent pendant 40 ans à garder les chèvres. Après avoir reçu toute l'éducation, toute la sagesse, avoir fait partie de l'élite, 40 ans à garder les chèvres. À 40 ans. Il y a une question qui est interdite de poser aux personnes qui viennent vous voir, ou qui viennent nous voir ou vous voir, et qui se mettent dans la tête l'idée de vouloir faire quelque chose pour les autres, c'est... Il y a une question qui est interdite, c'est pourquoi vous ne l'avez pas vous fait plus tôt ? Ça, c'est interdit. Le jour de Noël, c'est-à-dire le 24 au matin, c'est-à-dire cette année, c'était le quatrième dimanche de l'Avent, il y avait dans la première lecture l'histoire du roi David et d'une certaine façon de son réveil. Un matin, David se réveille et il va voir le prophète Nathan et il dit « Regarde, j'habite dans un palais somptueux et l'arche d'alliance, notre Seigneur, est encore sous une tente de toile, faite en toile, dans la tente de la rencontre. » Peut-être que c'est le mouvement de la vie. Peut-être qu'il est nécessaire que d'abord nos besoins soient assurés. Peut-être que nous avons besoin d'un confort minimal avant de nous réveiller et de se dire comment va le reste du monde. Avant de pouvoir s'occuper même de Dieu, de s'occuper des autres, il faut déjà que nous soyons en sécurité et en confort. Eh bien non, cette idée est fausse. Pourquoi je dis qu'elle est fausse? C'est parce qu'on trouve autant de générosité chez les pauvres, chez ceux qui manquent de tout, que chez les riches. Et Jésus dit même à un moment dans l'évangile que c'est plus impressionnant chez ceux qui manquent de tout. Il le dit à propos de l'obole de la pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle avait. Ce week-end, ici, c'est un week-end de fête paroissiale, journée d'amitié. Et c'est l'occasion pour nous tous de rendre grâce pour cette réalité sublime de l'Église qui est sans aucune contestation dans l'histoire le plus haut lieu de charité et de générosité qui existe. Dans les domaines les plus divers, de la santé, de l'éducation, on ne va pas faire l'énumération. C'est incontestable historiquement dans l'histoire de l'humanité. Réalité sublime de l'Église. Et les chrétiens qui ne sont pas fiers de l'Église sont soit des ignorants, soit des ingrats. Il y a 15 jours, le pape François, qui était au Chili, a rencontré des jeunes. Et il a commencé par leur parler de leur pays, le Chili, de leur pays à eux, leur patrie même. Parce que, je cite, le chemin vers l'avant, les rêves qui doivent se réaliser, le fait de toujours regarder l'horizon. Cela, disait-il, doit se faire les pieds sur terre. Et cela commence les pieds sur la terre de la patrie. Si vous n'aimez pas votre patrie, leur a-t-il dit, je ne crois pas que vous puissiez aimer Jésus et que vous puissiez aimer Dieu. Si vous n'aimez pas votre patrie, je ne crois pas que vous puissiez aimer Jésus et que vous puissiez aimer Dieu. Eh bien, on peut dire semblablement, si vous n'aimez pas votre patrie qui vous a vu naître, qui vous a nourri, qui vous a soigné, qui vous a protégé, qui vous a enseigné, qui vous a formé, vous aurez autant de mal à aimer l'Église, qui vous a enfanté à la vie nouvelle, qui vous a également nourri, qui nous nourrit, qui nous soigne, qui nous instruit, qui nous protège, qui nous rapproche de Dieu et des autres. Malheur à moi, dit saint Paul, si je n'annonçais pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'aimais pas l'Église. Trois réflexions que je voudrais ajouter. D'abord, à l'intention de ceux qui ont ce désir de vouloir faire quelque chose pour les autres. Mais pas forcément uniquement de faire quelque chose pour les autres, qui portent en eux un désir profond. Ça peut être un désir de découverte d'autres cultures, un désir de voyage lointain, mais ça peut être aussi un désir d'expression artistique, d'apprentissage, un désir de découverte. Quel que soit ce désir, si c'est ce désir profond, et qui se disent souvent « je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps ». Eh bien, si vous avez ce désir vraiment dans votre cœur, faites-le maintenant. Maintenant. Et si, en réalité, vous avez au plus profond de votre cœur ce désir de l'amour, en fait, ce désir de la plénitude qui est en réalité le désir de Dieu, voilà ce qu'il faut dire aux nouvelles générations, n'attendez pas d'être vieux. S'agissant de l'aide à rendre aux autres, de services qu'on peut rendre dans l'Église, mais pas uniquement dans l'Église, dans une association, dans un parti. Il faut savoir que si on ne le fait pas durant sa vie active, il y a de fortes chances qu'on ne soit plus capable de le faire après, qu'on soit inapte. Parce que le plus difficile, c'est pas de faire quelque chose pour les autres, c'est de faire quelque chose avec eux. Quand ces autres, exactement comme pour les bénéficiaires, sont des personnes qu'on n'a pas choisies, qu'on ne connaît pas, avec qui, surtout dans l'Église, on n'a rien d'autre en commun que Jésus-Christ. Enfin, je m'adresse à ceux qui se sentent, j'allais dire déjà, ceux qui se sentent débordés, saturés, pressurés, et qui le sont objectivement. Je pense à certaines mères de famille en qui l'Église s'est toujours reconnue comme mère de famille. Mais à certaines mères de famille qui doivent tout concilier, travail, enfants, maison, parents, la liste est longue. Et qui souffrent, toutes ces personnes qui souffrent de ce qu'elles vivent comme autant de frustration, de dispersion. Et pire, à qui certains esprits forts disent aujourd'hui, de façon abusive, faites-en moins, mais faites le mieux. De dire, de faire mieux en faisant moins. La parole exacte qui vient de nous être donnée dans l'évangile de ce dimanche, c'est de faire mieux en priant plus. En priant plus. C'est en sortant de la synagogue où il venait de participer à la prière commune que Jésus fait toutes ses guérisons. Et dès le lendemain matin, il se remet d'abord devant son Père, notre Père qui est au ciel. Alors on peut se sentir comme Job dans la première lecture, à bout de souffle, épuisé. On peut être, de façon plus ordinaire, se sentir faible. Je ne sais pas, manquer de fer, de magnésium, de vitamines, je ne sais pas encore. Voyez aussi, s'il n'y a pas, même surtout, un manque de prière. Je vous promets, je vous garantis qu'on peut faire mieux en priant plus. Et faire plus en priant mieux.